Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous et à toutes à l'écoute de ce bulletin d'information. Au sommaire aujourd'hui, explosion d'un immeuble dans le centre de Prague et une quarantaine de blessés légers. Célébration à Prague ce lundi de la journée internationale de la danse et les impôts en République tchèque inférieurs à la moyenne européenne. Une explosion s'est produite ce lundi matin aux environs de 10 heures dans un immeuble situé dans le centre de Prague, à proximité du Théâtre National. Très probablement due à une fuite de gaz, la déflagration a fait une quarantaine de blessés selon l'agence de presse tchèque ČTK et 55 selon la télévision publique. Le premier ministre Petr Nečas a pris connaissance de la situation et a fait part de son émotion. Il a plus tard précisé qu'il ne s'agissait pas d'une explosion d'origine terroriste. Les impôts en République tchèque, qu'ils concernent les entreprises ou les personnes, sont inférieurs à la moyenne européenne selon un rapport publié par l'Agence européenne des statistiques Eurostat comptant pour l'année 2011. La moyenne européenne s'élève à 38,8% du produit intérieur brut, PIB, des pays de l'Union européenne en légère hausse par rapport à 2010. En République tchèque, la fiscalité représentait 34,4% du PIB. L'impôt sur le revenu y est l'un des plus faible d'Europe à 22%, là où la moyenne des pays de l'UE s'établit à 44,8%. De la même façon, les entreprises tchèques sont taxées à hauteur de 19%, alors que l'impôt sur les sociétés est en moyenne de 31,9% au sein des 27. Pour la quatrième année consécutive, la journée internationale de la danse est célébrée également en République tchèque ce lundi. Les organisateurs ont cependant été contraints d'annuler une bonne partie des festivités qui devaient commencer sur la Piazzetta située près du Théâtre National, soit dans le quartier touché ce matin par une importante explosion. La société de transport Student Agency, connue pour ses autobus jaunes et sa politique commerciale offensive, s'apprête à investir le marché des taxis pragois et entend devenir la plus importante entreprise du secteur d'ici à un an. C'est ce qu'a annoncé Radim Janchura, le directeur de la compagnie à l'agence de presse ČTK. Il travaille également pour la nouvelle société Tic Tac Taxi, laquelle est détenue à 80% par Student Agency. Le premier ministre slovaque Robert Fico aurait déclaré, selon le quotidien Mlada Fronta Dnes, que Lydia Klausova, la femme de l'ancien chef d'État Václav Klaus, serait chaleureusement accueillie à Bratislava si elle y était nommée ambassadrice tchèque. Cette possibilité, évoquée par l'actuel président Miloš Zeman, mais très contestée par le ministre des Affaires étrangères Karel Schwarzenberg, qui lui reproche son inexpérience, témoignerait d'une, je cite, « grande compréhension des liens tchécoslovaques » selon Robert Fico. Le conflit ouvert entre le bureau de la lutte anticorruption et la procureure générale de Prague, Lenka Bradáčová, continue alors que cette dernière a affirmé ce lundi que certains membres de ce service de police ont cherché à constituer un dossier visant à la compromettre et à poursuivre son mari, l'économiste Tomáš Hájek. On termine avec la météo. Mardi, jour de la fête des Blahoslavs, selon le calendrier tchèque, il pleut sur l'ensemble du pays avec quelques orages possibles en Moravie, mais également quelques éclaircies. Le soleil devrait réellement faire son retour mercredi pour la fête des travailleurs. Les températures vont de 10 à 26 degrés pour les maximales. La suite du programme, c'est maintenant avec Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission sur Radio Prague. Merci à Pierre Maignan pour son bulletin d'information. Le torchon brûle à la mairie de Prague où la coalition au pouvoir semble bien mal en point. En effet, deux conseillers municipaux ont tiré leur révérence la semaine dernière, fragilisant un peu plus une équipe municipale déjà fort mal en point. Plusieurs objets et documents de Jan Kubiš, résistant responsable de l'attentat contre Reinhard Heydrich pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont été retrouvés dans sa maison natale, une découverte historique majeure. En deuxième partie d'émission, nous parlerons sport comme tous les lundis. Bonne écoute de ce programme. La coalition municipale à Prague est-elle en train de s'effriter? Deux membres ODS du conseil de la ville ont claqué la porte la semaine dernière. Un coup de théâtre qui n'est pas le dernier, rebondissement d'une collaboration de 3 ans qui n'a pas toujours été facile. Le point avec Geoffroy Berson.
Voilà qui ne devrait pas améliorer la coopération entre l'ODS et Top 09, les deux principaux partis de droite alliés au sein du gouvernement comme dans certaines collectivités locales. Alors qu'à un an des législatives, les deux formations sont d'ores et déjà en compétition pour le leadership auprès de l'électorat conservateur tchèque, les remous atteignent désormais la coalition municipale de la ville de Prague. Deux conseillers ODS ont démissionné de leurs fonctions le 25 avril dernier, dénonçant des pratiques antidémocratiques et une alliance qui fonctionne mal. Peu avare d'interventions télévisées depuis son annonce, Boris Chiasny, le premier des démissionnaires, ne mâche pas ses mots lorsqu'il s'agit d'expliquer sa décision radicale.
La direction de la ville est complètement verrouillée par une gestion incompétente de ses fonds, par un grand niveau d'opacité de clientélisme. J'ai décidé de refuser de poursuivre les responsabilités politiques qui sont les miennes dans ces conditions.
Le second contestataire se nomme Milan Richter et n'est autre que le maire du 10e arrondissement de Prague. Lui aussi pointe des dysfonctionnements et les deux rebelles l'ont ouvertement fait savoir lors de discours offensifs à l'occasion du dernier conseil municipal jeudi dernier. Jamais directement nommé de la bouche des deux démissionnaires, l'actuel maire de Prague, l'ODS Bohuslav Svoboda, n'en est pas moins sous le feu des critiques et se devait donc de répondre publiquement. Affublé comme toujours d'un large nœud papillon qui lui donne un air avenant, sa réplique télévisée aux attaques de ses nouveaux opposants est pourtant d'une ironie cinglante.
En réalité, ce sont des gens d'une autre époque, des gens qui sont restés bloqués à une époque ancienne et à de vieilles pratiques, alors qu'ils étaient entre amis et que le système fonctionnait ainsi. Aujourd'hui, ils découvrent la transparence du fonctionnement du nouveau conseil municipal et cela ne leur convient visiblement pas.
Ce que pointe ainsi Bohuslav Svoboda, ce sont des alliances et des jeux de pouvoir au sein même de l'ODS, le second parti en termes d'élus à Prague. Boris Chiasny et Milan Richter sont proches de Pavel Bem, le précédent maire de la capitale tchèque, qui est aujourd'hui soupçonné d'être impliqué dans diverses affaires de corruption. Difficile donc d'y voir vraiment clair dans ce qui ressemble au énième épisode d'une collaboration tumultueuse au conseil municipal de Prague. Formée en 2010, la première coalition comportait d'abord un accord bien surprenant pour les électeurs, qui, ayant placé Top 09 en tête lors des élections, se sont retrouvés avec un maire ODS, faisant alliance avec les sociaux-démocrates. Mais les petites combines ne durent qu'un temps, et en 2011, la coalition tombe à l'eau, pour laisser place à une logique alliance de droite entre les deux principaux partis conservateurs. Assurément, une telle genèse ne pouvait que déboucher sur une coopération tendue. Ces deux dernières années, les conflits entre partis, ainsi que ceux internes à l'ODS, se sont multipliés. Top 09 a ainsi, la semaine dernière encore, menacé de quitter la coalition pour cause de désaccord sur l'ordre du jour. Leur réaction à cette double démission était donc en toute logique très attendue. Le porte-parole du parti s'est voulu rassurant, affirmant que la coalition pouvait poursuivre son travail une fois les conseillers remplacés. Mais en coulisses, l'opposition fait toujours rage, notamment sur la question du financement des transports de la ville. Une dizaine de conseillers municipaux, dont le maire, sont d'ailleurs poursuivis par la justice pour abus de confiance dans le dossier de la gestion de l'Open Card. Une carte de service et de transport utilisée au quotidien par les Pragois et dont la gestion semble pour le moins opaque. Les prochaines élections municipales auront lieu en 2014, la même année que les législatives et les européennes. Des remous dans la coalition aux commandes de la capitale restent donc à prévoir pour l'année à venir.
Jan Kubisch, ce nom est à jamais associé à celui de Józef Gabczyk, son compagnon d'armes. Tous deux sont les auteurs d'un des événements les plus importants de la Seconde Guerre mondiale, l'assassinat du Reich protecteur de Bohême-Moravie, Reinhard Heydrich. Alors que la maison natale de Jan Kubisch est en travaux, des documents et des objets lui ayant appartenu viennent d'être découverts sous les escaliers menant au grenier. Une trouvaille historique importante. Des bulletins de classe, une carte d'assurance social, des cartes postales, des photographies de soldats, des éléments d'uniforme militaire, des décorations ou encore un couteau d'excursion. Tels sont quelques-uns des objets et documents découverts dans la maison natale de Jan Kubisch à Dolní Vilémovice, dans la région de Třebíč, dans le sud de la Moravie. Si les historiens sont extrêmement bien documentés sur l'attentat en tant que tel, et la période de la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui a trait à la mort de Reinhard Heydrich, peu de choses relatives aux parachutistes tchèques et slovaques antérieurs à l'événement nous sont parvenues. Ainsi, cette découverte fortuite datant d'avant le départ de Jan Kubisch en exil en 1939 est un événement de taille, comme le précise Jiří Dusík, son neveu.
My můžeme být akorát šťastní, protože my z předválečné doby nemáme vůbec nic.
Nous pouvons être heureux car jusqu'alors nous ne possédions absolument rien de l'époque d'avant-guerre. Nous n'avions pas de photos ni d'objets matériels. Je pense qu'au moment où les parachutistes étaient recherchés par les nazis, le frère de Yann ou quelqu'un s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose. Cette personne, peut-être à la demande même de Yann, a tout détruit pour effacer les traces pouvant mener la famille Kubisch.
Personne ne sait exactement qui a pu dissimuler ces objets dans la maison natale de Yann Kubisch, des objets mis à jour à la faveur de la restauration de la maison familiale qui doit ensuite être ouverte au public. Jitka Boučková, maire de Dolní Vilémovice.
Ces objets ont été retrouvés sous l'escalier très simple et très abrupt menant au grenier. Il ne devait même pas être concerné par la reconstruction car il est en relativement bon état. Il n'y avait qu'une seule démarche qui nous semblait pourrie et c'est en l'OTAN que l'entreprise chargée des travaux a fait cette découverte.
Pour les historiens, cette trouvaille inattendue jette un regard intéressant sur la personnalité du résistant tchèque, membre de l'opération Anthropoïde, chargée de liquider en 1942 le Reich protecteur de Bohême-Moravie. Un événement lourd de conséquences, puisqu'il mènera à une chasse à l'homme, mais aussi à la destruction totale de deux villages de Tchécoslovaquie, Lidice et Ležáky. Michal Burian, de l'Institut d'histoire militaire.
À quelques exceptions près, tout a un rapport avec sa carrière militaire. Il en ressort que la décision de Yann Kubisch en 1939 de quitter le protectorat et de rejoindre les unités tchécoslovaques en exil, et sa décision plus tard en Grande-Bretagne d'être volontaire pour la mission dans le protectorat occupé, n'ont pas été le résultat d'une idée soudaine. En fait, toute sa carrière militaire depuis 1935 tendait vers ce destin.
Směřoval k tomu evidentně celou svou vojenskou kariéru už od toho roku 1935.
Tous ces objets et documents sont à l'heure actuelle entre les mains d'historiens et de spécialistes. Lorsque leur analyse sera terminée, que les travaux de la maison natale de Yann Kubisch seront achevés, ils y seront transférés pour faire partie de l'exposition permanente prévue entre ses murs. Si 80% de la maison ont été rénovés, il manque encore un peu plus d'un demi-million de couronnes pour parfaire la reconstruction. La commune de Dolní Vilémovice espère pouvoir ouvrir la maison au public le 22 juin prochain, date du 100e anniversaire de l'année naissance de Yann Kubisch. Comme chaque lundi, place maintenant à la rubrique sportive au sommaire très varié puisque judo, hockey sur glace, tennis et football, rien que ça, y figurent. En judo, tout d'abord, Lukáš Krpálek est devenu le premier Tchèque champion d'Europe depuis un quart de siècle. En tennis, il s'agissait également d'une grande première pour Lukáš Rosol. Le récent héros tchèque en Coupe Davis a en effet remporté le premier tournoi ATP de sa carrière. En sport collectif, la République tchèque a entamé la dernière ligne droite de sa préparation au championnat du monde. Les Tchèques feront leur entrée en matière vendredi avec 10 joueurs évoluant en NHL dans leur effectif. Et puis en football, le Viktoria Plzeň a profité du faux pas du Sparta Prague pour prendre seul la tête de la Gambrinus Liga à 5 journées de la fin. Résumé de cette riche actualité sportive, tout de suite avec Guillaume Narguet.
Sport en République tchèque.
Pour la première fois depuis 25 ans, la République tchèque possède un champion d'Europe de judo. Lukáš Krpálek a été sacré dans la catégorie des moins de 100 kilos samedi à Budapest. Champion du monde junior en 2009, médaillé de bronze aux Mondiaux de Paris en 2011 et champion d'Europe des moins de 23 ans en 2012. Le Tchèque a ainsi ajouté à 22 ans une quatrième ligne à son palmarès et ainsi partiellement effacé la déception des derniers Jeux de Londres où bien que comptant parmi les candidats à un podium, il n'avait terminé que 7e du tournoi olympique. Sur les tatamis de la capitale hongroise, Lukáš Krpálek était de nouveau attendu et cette fois il a répondu présent, mobile et offensif, constamment à la recherche du hippon. Le combattant tchèque numéro 1 au classement de la Fédération internationale est venu à bout du néerlandais Henk Grol par Waza Hari en finale. Vainqueur de ses 4 combats précédents par hippon, Lukáš Krpálek a pris sa revanche en finale sur un Henk Grol qu'il avait battu lors du tournoi olympique et qui est depuis devenu son grand rival.
Je suis incroyablement heureux, surtout que j'avais beaucoup de supporters dans les tribunes. Cette médaille des championnats d'Europe me manquait. Jusqu'à présent, je n'avais collectionné que les places d'honneur. Cette victoire est donc en quelque sorte un grand soulagement. Ce n'est un secret pour personne, on ne s'apprécie pas spécialement avec N'Grol. C'est un adversaire qui me pose toujours pas mal de problèmes, et de l'avoir battu justement lui en finale est une autre source de satisfaction.
Avant ce titre, il fallait remonter jusqu'à 1988 et même 1954 pour trouver trace de judoka tchèque sacré champion d'Europe. Lukáš Krpálek est donc devenu le troisième d'entre eux et quelque chose nous dit que sa moisson de médailles ne devrait pas s'arrêter à ce succès continental. Autrement dit, on devrait à l'avenir de nouveau entendre parler de ce solide gaillard, récent vainqueur en février du prestigieux tournoi de Paris et numéro 1 dans sa catégorie des moins de 100 kilos au classement établi par la Fédération internationale de judo, et ce peut-être dès les prochains mondiaux de Rio fin août prochain. On passe au tennis, pour beaucoup et pas seulement pour le grand public. Lukáš Rosol, c'était d'abord deux faits d'armes. Une victoire retentissante contre Rafael Nadal sur le sacro court central de Wimbledon l'été dernier et deux victoires début avril en Coupe Davis contre le Kazakhstan. Deux victoires qui ont permis à la République tchèque de se qualifier pour une nouvelle demi-finale. Depuis dimanche, Lukáš Rosol, c'est également un titre ATP dont peu de joueurs tchèques en activité peuvent se targuer. Un premier grand succès obtenu à Bucarest qui lui a valu ce lundi de faire un bond de 13 places au classement établi par la Fédération internationale. Désormais 35e mondial, Lukáš Rosol est du coup devenu, ne serait-ce qu'officiellement, le deuxième meilleur joueur tchèque actuel. Derrière un Tomáš Berdych, toujours 6e, mais désormais devant Radek Štěpánek qui lui a reculé à la 48e place, précisément le classement qui était encore celui de Lukáš Rosol la semaine dernière. Même si les principaux ténors du tennis mondial étaient plutôt présents à Barcelone, Rafael Nadal en tête, la performance réalisée par le Tchèque sur la terre battue de la capitale roumaine n'en reste pas moins de choix. Une performance qui lui a valu de se voir remettre le trophée du vainqueur des mains de l'ancienne gymnaste Nadia Comăneci et une bouteille de champagne d'Ilina Staz dont le tournoi porte le nom. Mais surtout, Lukáš Rosol a éliminé trois têtes de série dont deux joueurs du top 20 mondial pour parvenir jusqu'en finale. Après avoir successivement sorti le Serbe Viktor Troitski, l'Italien Andreas Seppi puis le Français Gilles Simon en demi-finale, le Tchèque a disposé de l'Espagnol Guillermo Garcia López en 2-7, 6-3, 6-2 pour s'offrir donc le premier titre de sa carrière et un titre qui est assurément tout sauf au rabais. On passe au sport collectif. Comme chaque année au mois de mai, tandis que la météo invite généralement plutôt à la consommation de quelques bières sur une terrasse ensoleillée, débute le championnat du monde de hockey sur glace. Un événement qui souffre traditionnellement de l'absence de la plupart des meilleurs joueurs mondiaux, meilleurs joueurs retenus par les playoffs de la Ligue nord-américaine NHL et plus préoccupés par l'obtention de la Coupe Stanley, mais un événement qui passionne pourtant toujours autant les Tchèques, comme en témoigne la diffusion par la Česká télévisée, la télévision publique locale, de la grande majorité des matchs du mondial. Si le public tchèque s'intéresse autant à la compétition, c'est d'abord parce que pour ce championnat 2013, organisé en Finlande et en Suède, comme pour les précédents, la République tchèque figure une nouvelle fois parmi les principaux prétendants au podium. Médaillé de bronze en 2012, les joueurs de l'entraîneur Alois Adamčík espèrent secrètement reconquérir le titre de champion du monde qu'ils avaient décroché en 2011. Pour y parvenir, un groupe de 25 joueurs prendra cette semaine la direction de Stockholm. Dans cet effectif figurent 10 joueurs qui ont évolué cette saison en NHL et dont les franchises ne se sont pas qualifiées pour les séries éliminatoires de la Coupe Stanley. En revanche, seuls 4 joueurs portent le maillot d'un club de l'Extraliga tchèque. Les autres éléments du groupe provenant des 4 coins de l'Europe et notamment de la Ligue continentale eurasiatique KHL qui remplace depuis quelques années la Superliga russe. Dimanche, après la défaite 2-1 concédée contre la Russie à Brno dans le dernier match de préparation, l'entraîneur Alois Adamčík a justifié ses choix devant un important parterre de journalistes. On l'écoute.
Nous avons disputé de nombreux matchs de préparation. Celle-ci a été longue et nous attendions une plus grande régularité de certains joueurs. Mais cette sélection a été particulièrement difficile à faire cette année. Certains matchs ont été excellents, d'autres beaucoup plus moyens. C'est pourquoi, même si certains jeunes joueurs nous ont montré qu'ils avaient du potentiel et que l'on pouvait compter sur eux à l'avenir, nous avons plutôt fait le choix de l'expérience. Certains joueurs sont habitués à être des leaders dans leur club et beaucoup d'entre eux évoluent régulièrement dans des championnats étrangers. Ils sont habitués à un niveau élevé d'exigence, ce sont donc toutes ces raisons qui ont motivé nos choix.
Et pour savoir si ces choix ont été les bons, il faudra désormais attendre vendredi, quand les Tchèques disputeront leur premier match de groupe contre la Biélorussie, suivi d'un autre dès le lendemain contre la Suède. Au total, 7 matchs de poule, dont un toujours très attendu contre le Canada, figurent au programme avant, comme tout le monde l'espère, les quarts de finale mi-mai et le début de la véritable lutte pour les médailles. La seule chose qui, au fond, intéresse véritablement les joueurs, les médias et le public tchèque. Et puis on termine avec un mot de football. Le Viktoria Plzeň a profité de son déplacement à Jablonec samedi lors de la 25e journée pour prendre seul la tête du classement de la Gambrinus Liga, le championnat de République tchèque. Vainqueur 3-1, le club de Bohême de l'Ouest possède désormais 2 points d'avance sur le Sparta de Prague. Un Sparta qui, devant son public, a dû se contenter du partage des points de partout avec Irlava vendredi soir. Pour autant, le défenseur de Plzeň, Václav Prochaska, reste prudent, bien conscient que rien n'est encore acquis dans la course au titre.
Ce n'est certainement pas un avantage décisif. Comme le Sparta, nous avons encore plusieurs matchs difficiles qui nous attendent. Et plus la fin du championnat va se rapprocher, plus les points seront difficiles à prendre. 2 points à 5 journées de la fin, ce n'est qu'une toute petite avance. Ce qui compte d'abord pour nous, c'est de bien négocier nos 2 prochains matchs à domicile. Mais c'est sûr que cette victoire à Jablonec nous permet de les aborder dans les meilleures conditions. Nous ne suivons pas trop les résultats du Sparta. Je pense qu'ils ne perdront plus beaucoup de points. Leur match nul concédé contre Irlava a donc été une agréable surprise pour nous. Désormais, nous avons notre destin entre nos mains et c'est le plus important.
À 5 journées de la fin, le Viktoria Plzeň, qui possède également une meilleure différence de but que le club de la capitale, peut donc plus que jamais espérer décrocher le 2e titre champion de son histoire, après celui conquis à l'issue de la saison 2010-2011. Si tel était le cas, ça risque d'être une nouvelle fois la soupe à la grimace du côté d'un Sparta qui verrait alors le titre lui échapper pour la 3e saison consécutive.
C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague. Tous ces sujets, retrouvez-les sur notre site internet, le www.radio.cz/fr. Évidemment, nous sommes également sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. N'hésitez pas à consulter ces pages. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir suivi cette émission proposée aujourd'hui par Anna Kubishta. Bon vent. Ahoy.